Merci d'être venu sur cette conférence. On y va, c'est parti.
Oui, c'est parti. S'il y a deux gens qui rentrent, on les fera rentrer par
Sinon, vous pouvez remplir les premiers rangs, hein. Enfin, ça aussi.
Non, c'est vrai. Il n'y a pas d'interrogation.
Non, non, il n'y a pas d'interrogation
non,
à la fin.
Non, c'est, voilà, si vous voulez pour
jeter
c'est possible.
En même temps, comme ça, on les voit de loin.
Oui, ça va.
Mais en même temps, quand mes profs me disaient ça, jamais j'allais au premier rang.
C'est bah, les... moi aussi.
Merci d'être avec nous pour ce début d'après-midi. On va parler rêves des chemins oniriques, puisque la conférence s'appelle Chemins oniriques, des rêves de princesse au cauchemar. On a la chance d'avoir trois auteurs qui œuvrent dans les domaines de l'imaginaire, donc science-fiction, fantastique et fantasy, pour des écrits de pure imagination. Donc on verra un petit peu avec eux la place des rêves dans leurs œuvres, la place des rêves pour leurs personnages. Et puis la place des rêves pour eux, en tant qu'auteurs et autrices, savoir si, si ça compte. Il y a certains auteurs hein, qui se réveillent et qui notent tous leurs rêves. On a même connu qu'ils mettaient des réveils spécialement, on verra si c'est leur cas. Donc si cette matière onirique est importante pour eux. À mes côtés, Chloé Chevalier, Massimona et Laurent Pougeois. Alors Chloé Chevalier, on la connaît pour les récits du demi-loup, qui est une série en 4 tomes, les trois premiers viennent de sortir, série de fantasy, avec notamment cette originalité d'avoir des princesses et leurs suivantes. Alors, elle nous expliquera pourquoi c'est original, parce que je dis comme ça, c'est pas très original, mais il y a une originalité forte chez Chloé. À ma gauche, Eva Simonin, avec deux ouvrages, Les Tisseurs de Temps, aux éditions Atria, au feu, les éditions Atria, et puis Enfant du Chaos, Bouton électrique, dans la collection Naos, peut-être un peu plus en science-fiction, pour le coup. Et puis on pourra travailler un petit peu autour de tout ça, quoique science-fiction, pas forcément. Et puis Laurent Pougeois, donc, à côté, le garçon du trio, qu'on connaît notamment avec l'Ange Blanc, donc lui, il nous parlera d'un empire napoléonien qui est toujours au goût du jour, hein, qui a survécu. Et puis on parlera de Kadat, l'équipe de la cité inconnue. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Lovecraft, mais Lovecraft est un personnage important et les rêves chez Lovecraft, Kadat, cité onirique par excellence. On pourra en reparler aussi. Moi, j'avais d'abord envie de faire un petit tour de table pour leur demander à quoi en fait rêvaient leurs héros et héroïnes, savoir qu'est-ce qui les motivait. Vous savez que le rêve, il y a le double sens, hein, ce qu'on rêve la nuit et puis des aspirations. Et donc, on va peut-être, pour découvrir un peu ce qu'ils font, les uns et les autres leur poser la question. Chloé ?
Oui, alors d'abord poser une petite question, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà lu ces livres-là ? Ok. Donc peut-être que je commence par les présenter. Donc c'est une série de fantasy née sans vraiment fantasy, au sens où dedans il n'y a pas de magie, pas de créatures fantastiques. On peut quand même parler de fantasy parce que ça se passe dans un monde qui n'est pas l'autre, dire qu'il y a un côté plutôt médiévisant, en tout cas pré-industriel. Ce n'est pas notre moyen à nous, ce n'est pas notre passé. Donc voilà, bon, ça c'est imaginaire, mais ce n'est pas vraiment de la fantaisie au sens, je ne sais pas, tolkienien du terme. Donc ce que disait Jérôme tout à l'heure, c'est qu'on a affaire à un groupe de jeunes filles, parmi elles deux princesses, et petite spécificité du monde en question, c'est que là-bas, les enfants de la famille royale, à la naissance, se voient attribuer un suivant ou une suivante, selon si c'est une fille ou un garçon, qui est en fait un enfant qui naît juste un jour après le jour suivant, et qui va être arraché à sa famille pour ensuite devoir accompagner le prince ou la princesse en question toute sa vie. Donc il reçoit strictement la même éducation, et qui grandit avec lui, et qui à la fois, et donc ça c'est un peu un des fils rouges de toute la série, son rôle, donc qui est à la fois un ami, un confident, mais aussi un modérateur, voire un remplaçant potentiel si le souverain en question vient à tomber d'une façon ou d'une autre. Donc ensuite, pour répondre à la question de à quoi rêvent les personnages, on prend de leurs rêves au sens propre de à quoi elles pensent la nuit, très honnêtement, je ne sais pas beaucoup, je pense que là où j'en suis dans l'écriture dans le tome 4, c'est surtout des cauchemars, voire pas beaucoup, parce qu'elle dort plus souvent. Mais pour en vrai, pour prendre le rêve au sens plus large de vision, projets pour les royaumes qu'elles sont en train de qu'elles sont amenées à diriger, donc presque de vision du au sens utopie ou projet d'avenir. En fait, ce que je pense, ce qui les caractérise, c'est qu'elles n'ont pas eu ou pas eu assez, surtout au moment de commencer à régner, en fait. Et ce qui fait que au moment où elles auraient dû avoir des grands projets ambitieux et se dire, ok, moi, quand je serai au pouvoir, je vais faire telle chose et telle chose et telle chose, et voilà mon programme électoral, ma vision pour l'avenir, ce truc-là, non, elles pensaient surtout à elles. Et au moment où elles grandissent, elles n'ont plus vraiment de projet. Et les événements de l'air font que c'est un petit peu trop tard pour en développer là, parce qu'il y a des guerres qui ont éclaté, il y a une épidémie qui se répand au royaume, il y a un pays voisin qui met une grosse pression militaire, et en fait à ce moment-là c'est trop tard pour avoir des vrais projets. Et c'est pour ça que c'est un petit peu difficile pour elles, parce que avancer dans des conditions difficiles quand on sait où on va, c'est plus facile que quand on est juste en train de lutter de façon un peu plus passive contre ce qui nous arrive. Donc voilà, je pense que c'est une des difficultés des personnages du 2012, c'est que elles n'ont pas assez rêvé quand elles en avaient le temps. Et finalement, le personnage qui s'en sort le mieux, qui c'est le prince qu'on voit arriver vers la fin du premier tome, qui lui a grandi ailleurs et qui lui a du coup développé une vision un peu plus vaste de ce que devait être son royaume. Et qui du coup a ce rêve, cette vision à long terme, donc qui n'est pas forcément réaliste, mais au moins il peut essayer d'aller là-bas. Et c'est lui qui va le mieux s'en sortir. Grosso modo, en tout cas, là où j'en suis pour l'instant, au tome 3.
Oui, ce qui veut dire qu'elles ont des aspirations, si ce n'est limité, mais des aspirations peut-être plus immédiates, parce que
c'est ça, c'est au moment où elles auraient pu rêver parce qu'elles étaient un peu à l'abri, elles n'ont pas fait, et là, elles sont obligées de se dépatouiller dans la gadoue des problèmes immédiats, en fait. Et du coup, il n'y a plus du tout de place pour rêver, quel que soit le sens de rêver. Elles sont plutôt en train de se débattre pour se réveiller du cauchemar. Et à la limite, aussi, elles peuvent avoir des espoirs. Mais un espoir, c'est pas plus leur rêve. Elles peuvent avoir l'espoir que ça s'améliore, que ça ne tourne pas beaucoup plus mal. Mais avoir des rêves, c'est difficile pour les héroïnes au moment où j'en suis là, dans le cas.
Alors, je vais passer la parole à Eva, et notamment dans Enfant du Chaos. Peut-être que tu peux nous présenter la jeune fille qui est héroïne, c'est Aniel. Un petit peu ses espoirs, ses rêves, ses aspirations.
Oui, mais mon micro ne marche pas. Attends, il y a celui avec une ficelle qui ne marche pas en cas.
Fais ça.
Ah, merci. Je connais aussi très vite un peu de contexte sur. Donc là aussi, on est dans un monde de fantasy complètement imaginaire avec des dieux, dont un dieu qui est mort, celui de l'équilibre. C'est dommage parce que quand il n'est pas là, ça veut dire quoi? Plus de chaos, des catastrophes surnaturelles. Et notamment des monstres appelés spectres qui peuvent apparaître spontanément et se trouver des victimes parmi les gens. Et donc, au début de l'histoire, Aniel pense que sa famille a été victime d'un de ces monstres et elle essaye de refaire sa vie en tant que pompier, puisque c'est dans ce monde les catastrophes surnaturelles sont gérées par les pompiers. Hein. Qui est-ce qu'on appelle quand on a des problèmes d'incendie les pompiers, quand on a des problèmes de spectres les pompiers aussi, voilà. Et donc, au début, ses rêves sont tout simplement ceux de refaire sa vie dans ce nouveau métier, dans cette nouvelle vie. Et puis, elle découvre que malheureusement, cette histoire qu'elle croyait elle-même n'est pas vraie. Elle n'est pas humaine, elle est un spectre qui a été transformé en être humain par intervention divine. Et elle doit donc vivre avec ce péché originel d'avoir tué, massacré des gens avant d'être transformée. Humaine, et donc à partir de ce moment-là, son rêve devient de rester autant humaine qu'elle le peut, malgré sa nature monstrueuse qui a tendance à refaire surface. Pendant son histoire, elle croise une princesse qui a un rêve, elle aussi. Elle rêve de s'emparer du trône dont a été chassé le roi son père. Et comme elle ne manque pas d'ambition et qu'elle manque un peu plus de scrupules, quand ces deux-là se croisent, la princesse l'encouragera plutôt à embrasser son côté monstrueux et à diriger son rêve du côté du cauchemar.
Ce qui veut dire qu'il y a en permanence une confrontation entre rêve et chaos et que c'est pas forcément le côté obscur qui est le plus effrayant.
J'ai pas compris.
Ce qui veut dire qu'elle rêve de rester humaine tout en luttant contre sa nature.
Sa nature première,
entre guillemets, et que du coup le roman est construit sur ce conflit entre.
Exactement. Ben, en fait, elle est son propre pire ennemi, hein, puisque elle, tout ce qu'elle voudrait, c'est. Ben, le temps où elle a passé, où elle se croyait complètement humaine, ça lui a bien plu, ça ne lui plaît pas du tout de se rendre compte qu'en fait elle ne l'est pas. Et donc, son aspiration, ce serait de rester humaine, mais elle doit se battre contre elle-même et contre les gens du coup, qui ont plutôt tendance à encourager le monstre en elle.
Très bien. On va passer à l'histoire. À Laurent, avec Dans l'ange blond, alors pour le coup, une héroïne peut-être un petit peu plus différente, complètement dans l'action.
Oui, bah là, moi je travaille dans un univers, enfin, l'héroïne est dans un univers qui n'est pas un univers de fantasy, mais un univers, je dirais pas strictement contemporain, dans le sens où c'est une trame temporelle différente dans laquelle Napoléon a réussi à envahir l'Angleterre et donc à installer un grand empire napoléonien qui perdure jusqu'à nos jours. Et donc dans cet univers, mon héroïne est déjà, alors qu'elle a 25 ans, 28, est déjà une ancienne de la Légion impériale. Présentation de donc à quoi elle rêve. Donc déjà mon héroïne c'est pas une princesse, quoique. Mais bon ça sera un spoil. Et à quoi elle rêve? Elle a un rêve général de liberté avant toute chose. Parce qu'elle a été toujours contrainte, c'est une enfant adoptée, dans une famille qui était assez dure, elle a eu des problèmes avec son frère adoptif, qui d'ailleurs, sur les raisons qu'il a envoyé dans la Légion. Donc elle rêve surtout d'être libère, d'être libre, et peut-être d'être même anonyme, ce qui revient à la liberté aussi pour elle. Et sinon, ses rêves au sens réel du terme, les rêves qu'elle fait, elle en fait assez peu, parce qu'elle a tendance justement à éviter des rêves dans lesquels elle revit des choses qu'elle a vécues, forcément parce qu'elle a fait des opérations de guerre, elle a eu un rapport compliqué avec son frère, avec très violent. Forcément, ses rêves ont tendance à la ramener assez facilement dans ces univers-là, et donc elle a une tendance à se saouler, à se plonger dans, à la fois dans l'action et dans des nuits qui sont assez courtes puisqu'elle est dans la musique, puisqu'elle est même ce que j'appelle moi un maître orchestreur, c'est-à-dire une sorte de DJ dans mon univers. Voilà.
D'accord, très bien. Est-ce que du coup elle a peur de rêver ou pas vivre des cauchemars, mais est-ce qu'elle ne s'autorise pas non plus à ne pas rêver? Alors, est-ce qu'elle refuse le rêve? Pas s'autoriser justement à rêver.
Elle ne veut pas s'autoriser, elle a du mal à s'en empêcher, mais en limitant le nombre de sommeil, tu concentres le sommeil sur le côté réparateur du sommeil, et en évitant le sommeil paradoxal, en étant purement physiologique.
Petite question, alors là je pense à l'autre livre, est-ce que tu peux nous parler de Kadat et de Lovecraft?
Oui, alors là on est dans un univers qui est très différent. En fait, je vais faire un petit aperçu de Lovecraft. Lovecraft, en fait, c'est un auteur américain du début du XXe siècle, hein, qui est considéré dans les pays anglo-saxons comme l'égal d'Edgar Allan Poe. C'est un grand maître du fantastique et de la terreur, d'épouvante, on peut dire aussi, épouvante et surnaturelle en littérature. Et c'est qui a la caractéristique. Deux caractéristiques, il y en a plein, mais notamment par rapport au rêve, il écrivait beaucoup à partir des rêves qu'il faisait. Il avait une correspondance notamment qui était énorme avec beaucoup d'autres auteurs, avec même des lecteurs, et il racontait des rêves, et ses rêves étaient d'une précision absolument délirante, et ses rêves ont souvent servi de fondement aux histoires, parce qu'il y avait essentiellement des nouvelles, aux nouvelles qu'il a écrites. Donc ça c'est une première chose, et par rapport aux rêves, Lovecraft il a également créé un univers, une sorte de monde parallèle qu'on appelle les contrées du rêve, et qui sur l'idée est constitué en fait de l'énergie onirique de tous les humains depuis la nuit des temps, qui en fait c'est une énergie qui prend forme dans un monde parallèle, dans mais sans vraiment s'en rendre compte dans les rêves par bribes, et que quelques personnes qu'on appelle les grands rêveurs dans l'univers de Lovecraft sont capables, dans lesquels ils sont capables d'entrer physiquement, enfin d'entrer, oui, physiquement, de s'incarner physiquement à l'intérieur de ces contrées du rêve.
D'accord. Et donc toi, tu as écrit une histoire dans ces contrées.
Absolument, oui, oui. Donc oui, il y a des nouvelles et même une histoire complète qui existe donc de Lovecraft. Et nous, ce qu'on a fait, parce qu'en fait, c'est un personnage, enfin c'est un auteur qui est assez, qui est un personnage assez fondateur dans les milieux de l'imaginaire pour les auteurs français, pas que français d'ailleurs. King, Stephen King le cite comme étant un grand maître. En France, des gens aussi improbables que le nom manque, avec la carte des territoires.
Houellebecq.
Que Houellebecq a d'ailleurs fait un essai sur, il a fait un essai sur Lovecraft. Enfin, on est vraiment sur quelqu'un qui est, quand on entre dans Lovecraft, c'est pas pour religion, mais on entre dans, vraiment dans un univers qui est très particulier et qui marque, je dirais, à jamais pratiquement. Voilà. Et donc nous, là, dans ce bouquin qui s'appelle Les Clés d'Argent, qui est une référence donc, à une des œuvres principales de Lovecraft dans les contrées du rêve, on a rendu un hommage à un auteur français en écrivant chacun une nouvelle dans ce qui se déroule dans ce monde des contrées du rêve.
Est-ce que vous, la matière onirique comme Lovecraft, vous en servez? Est-ce que vous notez vos rêves? Est-ce qu'il y a des bouts de rêve dans vos romans? Est-ce que ça compte en tant qu'auteur? Chloé d'abord.
Oui, moi pas mal. Alors, que ce soit dans Léo Desmilou ou dans mes autres travaux d'écriture d'une manière générale. Enfin, voilà, je rêve beaucoup, je me souviens souvent pas mal de mes rêves. Ça m'est déjà arrivé d'écrire un court-métrage en partie de mon rêve. Je vais le tourner par la suite. Et un roman de science-fiction que j'ai commencé à écrire, dont j'ai écrit à peu près un tiers, un quart, et sur lequel j'espère me repencher après les récits de Milou, est basé pour une bonne partie sur un rêve que j'ai fait, qui était assez développé, assez précis, une histoire avec un début, un milieu, une fin, et je me suis dit, tiens, ça ferait un bon point de départ pour commencer un roman un petit peu plus long, et que j'ai écrit dans les 3 semaines super vite qui ont suivi la nuit où j'avais fait ça. Donc ça m'arrive de temps en temps de rêver d'une scène d'un bouquin, même dans 2012, ça m'est arrivé un petit peu. Ensuite, je le mets sur papier.
Donc, tu peux nous en citer un ou deux exemples?
De scènes précisément que j'ai rêvé avec dialogue compris. Il y a une scène du tome 2 où Aldemort revient au château des Viennes et où son père lui fait une grosse révélation que je ne dirai pas là, et où ensuite il croise sa sœur Mal et que ça le met un peu dans tous ses états. Et ce petit passage-là de retrouvailles, c'est pas une scène particulièrement extraordinaire, mais ça m'arrive de temps en temps d'avoir des petits passages qui me viennent comme ça.
Est-ce que tu traques tes rêves un petit peu quand tu les notes, tu y fais attention?
Non, je ne les note pas, je ne me lève pas pour les noter la nuit. En général, en fait, quand ils sont suffisamment marquant et suffisamment bien architecturé, ce qui m'arrive quand même souvent, mais après c'est peut-être le fait que je suis scénariste à côté, que je passe vraiment beaucoup de temps à écrire, du coup j'ai l'impression de faire des rêves qui sont assez scénarisés en fait, et quand il y en a un qui se distingue un peu, oui je le retiens, mais de voir j'en fais une histoire concrètement ensuite, donc ça m'arrive, ouais.
Et pour toi Emma?
Alors, il y a très longtemps, quand j'étais bien jeune, j'ai failli partir sur une idée de roman à partir d'un rêve aussi que j'ai fait qui, comme dit Chloé, présentait presque une histoire cohérente. Mais c'était vraiment l'exception. D'habitude, j'ai pas une telle cohérence et ça me suffit pas. En fait, il me faut encore beaucoup de rêves éveillés pour le coup, pour nourrir un peu mon imagination et c'est pas pour moi une assez bonne source d'inspiration, les rêves de la nuit. Ça part dans tous les sens.
Quelque chose qui m'arrive régulièrement aussi, c'est de rêver que je lis. Alors, soit que je relis un bouquin que j'ai déjà connu, que j'ai déjà lu deux fois, et où je relis les passages où il se passe des autres trucs, mais que j'invente dans ma tête, ça m'arrive régulièrement de rêver que je relis un Harry Potter et que je redécouvre des nouveaux passages que je lis avec grand plaisir dans mes rêves. Ou je sais que le dernier tome de l'Ascenseur Royal de Robin Hood attend sur mon étagère depuis à peu près un an. Et je me suis promis que je le lirais quand j'aurais fini 2000 ou mais pas avant. Et donc ça m'est arrivé une ou deux fois de rêver que je le lisais. Et donc du coup, dans mon rêve, il se passait des trucs qui étaient relativement crédibles par rapport à ce qui pourrait se passer et assez développés. Donc sais pas, ça m'arrive souvent de rêver d'histoires que je suis en train de vivre aussi.
Alors, pour moi, le rêve, c'est avant tout des histoires. Enfin, bon, je suppose que c'est un peu pour tout le monde, mais c'est essentiellement des sensations et des images. Donc oui, je vais me servir d'images qui me restent, à condition effectivement de les noter assez rapidement. Par contre, les sensations, elles restent très présentes. Et tu peux me demander un exemple tout à l'heure. Moi, par exemple, pour l'ange, il y a une sensation, parce que moi, je suis un grand anxieux du vide, et, de l'avion, de tout ça, des téléphériques, je ne suis pas tranquille. Et c'est des choses que je retrouve, la sensation de la chute, qui est un classique aussi dans les rêves, la chute où on va s'écraser en bas. Et typiquement, les sensations que j'essaye de maîtriser, même à laquelle j'essaye de donner un sens. Et par exemple, la scène d'introduction de l'ange, une scène de chute libre dans une zone assez dangereuse, en l'occurrence au-dessus de Londres, qui correspond justement à des sensations que j'essaye de donner une existence, j'essaye de donner une cohérence.
Et dans le travail d'auteur, si on ne parle pas de rêve, mais de rêve un peu éveillé, enfin, qu'est-ce que vous laissez à la part de l'inconscience ?
Alors, moi, je considère que écrire, c'est être en permanence en semi-rêve. Écrire, c'est laisser ton esprit, dans mon cas, il y a des gens qui construisent certainement beaucoup plus, mais pour moi, écrire, c'est me laisser la possibilité de divaguer. Donc, il m'est même arrivé au boulot, pendant des périodes un peu creuses, de laisser mon esprit divaguer, même sur une scène que je suis en train d'écrire à la maison, et d'un seul coup, il y a un ressort qui se met en place, et après, c'est vite que je rentre pour mettre au propre. Voilà, mais c'est pas une conscience, genre je pense, il faut que je fasse ça, comment est-ce que je vais m'en sentir. Non, c'est vraiment, je laisse dériver, c'est la durée d'éveil. Pour moi, écrire, c'est ça, quoi. C'est vivre en permanence un rêve d'éveil.
Il y a Pierre Rodage qui dit souvent qu'il se couche, il a laissé ses héros dans des situations impossibles et qui se lève le matin, il a la solution.
Oui, ça c'est clair. Et là, la solution du matin, c'est clair. Il y a des fois, tu te couches le soir, comment je vais faire pour ça, mais non, voire même tu te dis, non, c'est nul, il faut que je fasse autrement et tout. Et le matin, d'un seul coup, c'est limpide. Donc est-ce que quelque chose est venu dans la nuit dont tu n'as pas réellement conscience, ou c'est simplement du fait que tu es reposé parce que tu t'es couché trop tard? C'est possible aussi.
Et là, Chloé, tu peux rebondir sur cette notion de révéler, de parler ça à l'inconscient.
Oui, de parler ça à l'inconscient, par définition, si c'est inconscient, c'est difficile de dire que je vais laisser parler mon inconscient là tout de suite. Mais par contre, oui, le fait que quand on arrive à se déconnecter ou à se déconcentrer de ce qu'on est en train de faire et laisser son esprit partir un peu, que là, les idées se mettent en place, oui, c'est quelque chose qui arrive. J'ai souvent des idées qui arrivent quand je me promène dans la nature, ou par exemple quand je vais au musée et que je me promène et que je regarde des tableaux, donc je regarde juste des images assez évocatrices et ça me débloque au niveau de l'imagination souvent et je me mets à avoir des idées pas forcément liées au tableau que je suis en train de regarder d'ailleurs. Et cette impression effectivement d'avoir trouvé la solution au matin, oui, c'est parce que alors, quand on commence un roman, plus on avance dans un roman, plus moins on a l'impression d'inventer les trucs, mais juste les découvrir en fait. On attend que les pièces se mettent en place un peu toutes seules parce que toute la logique du livre est déjà contenue dans ce qui a déjà été écrit. Donc plus tu avances, plus ce sentiment-là il est prégnant. En tout cas, chez moi, c'est que tu découvres les trucs et enfin tu comprends ce que tu dois écrire. Il n'y a en général qu'une solution possible de ce qui peut advenir maintenant. Quand tu as déjà écrit, je crois, presque 1200 pages de bouquin, on ne découvre pas les choses, on découvre les choses qui sont déjà contenues dans ce qu'il y a avant. On ne les invente pas nulle part. Et là, il faut effectivement arriver un peu à lâcher prise et à se laisser un petit peu porter, laisser un peu son esprit dériver pour retrouver tout ça.
Et là, tu vois.
Oui, alors, je les rêves de la nuit, non, mais les rêves de éveiller, comme je disais, oui, par contre, pour moi, c'est très, très important pour l'inspiration. Ça peut venir à n'importe quel moment de la journée, du moment qu'il y a un instant de cerveau libre, on va dire. Ça peut être quand je nage à la piscine, ça peut être quand je fais un bout de trajet en voiture que je connais par cœur, ça peut être quand apprends qui viennent. Des fois, ils ont l'air intéressants, je les garde dans un coin de la tête. Des fois, je les laisse s'évaporer parce qu'on ne peut pas tout garder. Hein. Des idées, il en vient plein. Des rêves éveillés, il en vient plein. Ils ne sont pas tous si intéressants que ça. Mais je pense que c'est bien d'en laisser venir plein pour pouvoir faire ce choix après. Et après, commencer à passer du rêve à la réflexion quand on veut les creuser.
Vous avez des univers en fantasy, hein, ou en fantastique, vous avez donc des univers fantasmiques, entre guillemets. Comment est-ce que vous les avez mis en place, ces univers de rêve, voire de cauchemar?
Je commence par un élément qui m'intéresse, puis j'en rajoute un autre, puis j'en rajoute encore un autre, et puis je compose comme ça, petit à petit, dans l'univers. Alors par exemple, pour celui-là, un élément qui m'a intéressé très vite, c'était d'avoir un dieu mort. Voilà. Parce qu'il y a, dans la fantasy, il y a souvent des dieux qui sont plus ou moins présents, parfois très présents. Puis qu'est-ce qui se passe s'il y en a un qui est essentiel et qui est mort? Ça m'intéressait aussi d'avoir une prophétie. C'est un élément qui revient souvent dans la fantasy. Des fois, ça peut faire un peu cliché. Et j'avais envie d'avoir une prophétie pour que les gens en parlent, pas pour qu'elle se réalise dans le livre, mais pour que les gens dans l'univers aient des rêves dessus. Si une prophétie dit que quelqu'un dans l'humanité va devenir le nouveau dieu qui manque, et il rêve, ah, peut-être que ce serait moi, quand est-ce qu'il viendra, ah, si c'était moi, ça se passerait comme ça. C'est juste pour... la prophétie ne se réalise pas dans le livre, donc c'est pas pour mettre ce cliché-là habituel, mais c'était juste pour... une idée que j'avais envie de développer pour animer ce monde.
Alors, c'est une question toujours un peu compliquée à répondre parce que c'est très très vaste en fait. C'est un peu complexe d'essayer de déterminer d'où te vient l'univers, qu'est-ce que tu avais envie de mettre à l'origine. D'autant que moi, je pense que j'ai commencé à écrire les toutes premières versions du 2000 en 2005 en fait. Ça remonte déjà un petit peu et je ne sais pas si je suis encore capable de me dire qu'est-ce que je voulais absolument à l'époque et pourquoi j'ai mis ces ingrédients-là dans la soupe. Mais pour suivre la métaphore culinaire, peut-être qu'il y aura ses limites, mais c'est. Voilà, il y a certains trucs, mais Eva l'explique très bien, c'est ok, je veux ça. Alors ça peut être un personnage, ça peut être un décor, ça peut être une action. Une fois que tu as mis ces premières pièces, il va falloir mettre des liens entre ces pièces-là. Du coup, on va rajouter les ingrédients nécessaires pour que ça soit cohérent. Et plus on rajoute d'ingrédients, plus on sent ce qu'il faut rajouter pour compléter. Des coutumes, des paysages, des chansons, des caractères de personnages qu'il va falloir affiner, certains types d'actions, alors des passages plutôt réflexifs qui vont donner un aperçu de comment les gens dans ce monde pensent et ressentent, etc. etc. Et voilà, et après savoir comment j'invente tout ça, il y a une part qui c'est en fait, enfin, moi j'ai tendance à penser que c'est essentiellement de la recomposition, parfois consciente et parfois inconsciente de ce qu'on a engrangé nous dans notre vie. Donc que ce soit des films, des lectures, des récits, des voyages, tout ce qu'on a vu, écouté, ressenti dans sa vie, qu'on digère et qu'on ressort plus ou moins consciemment. Voilà, à tel endroit, ça va être tel paysage que j'ai vu et qui m'aura influencé, telle petite anecdote, ça sera un truc que j'aurais repris tel quel en toute connaissance de cause, ou tel personnage, je vais m'inspirer du physique de l'un tel pour le décrire. Voilà. Et des fois aussi, c'est totalement inconscient, et c'est après coup que je me dis ah, mais ça, en fait, ça me vient d'ici, bien sûr, et c'est, alors je sais pas s'il y a un nom pour ça, une espèce de réminiscence inconsciente. Après coup, assez longtemps après, je me dis oui, effectivement, ça me vient de telle ou telle chose. Mais la phase où finalement on se dit bon, je veux absolument telle brique et telle brique et telle brique, je la trouve assez congrue en fait dans le processus d'écriture. Cette phase tout très conscient, très actif, de poser les gros piliers, c'est au tout début, puis après en fait tout est déjà en germe et on n'a plus qu'à broder le reste.
Alors, moi, pour moi, c'est un peu facile parce que, notamment pour Galact et pour les. Enfin, pas pour Galact, mais pour les contrées du rêve, c'est un univers qui existe, c'est un univers qui a été décrit par Lovecraft, et en fait, la difficulté. idée, enfin, le sel de cette idée clinique, c'est d'arriver à se dégager de la référence absolue, de la révérence même à l'auteur, ou surtout de rien modifier de ce qui a été écrit. Donc moi je me suis dégagé en construisant un côté. Donc ce qu'on a fait aussi dans un autre volume qui n'est pas ici, qui s'appelle Kadat, où par exemple Lovecraft a écrit dans son livre qui s'appelle À la recherche de Kadat, il a décrit une cité qui est la cité des dieux, qui est aux confins de cet univers des contrées du rêve, et dans lesquelles donc, son personnage, Ralph Carter, va traverser mais le château en haut de la cité, mais il n'en dit pas plus. Il parle de cette cité, il en donne des aperçus, un grand renfort d'adjectifs cyclopéens, voilà. Mais après, il n'y a pas une description. Et nous, le challenge, en fait, c'était une commande d'un éditeur qui avait cette idée, et qu'on a eu, c'était donc à quatre auteurs et un illustrateur, ce qui était énorme comme travail, ça a été d'imaginer quelle pourrait être la Kadat à travers le prisme de plusieurs personnages à des époques différentes. Donc le challenge a été plus de se mettre, d'essayer de se mettre justement dans le... Pour moi, en tout cas, je vais parler pour moi, de se mettre dans cette espèce d'état un peu hypnotique, halluciné, qu'on a, sans prendre de produit, hein, mais de se mettre dans cet état pour essayer de retrouver l'essence de Lovecraft avec mon style à moi, avec un langage contemporain, avec mes idées à moi, mais d'essayer de retrouver cette essence, en laissant dériver des personnages dans des choses improbables, puisque c'est souvent improbable, voilà. Donc ça, c'est l'essentiel pour les contrées de rêve.
Ça change. C'est éteint surtout. Voilà.
Est-ce que ça change quelque chose d'écrire justement dans un rêve? Que la matière même de l'univers soit un rêve.
Alors c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait Lovecraft, ça a l'air d'être du fantastique, mais en fait ça n'en est pas, c'est de la science-fiction. Donc en fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, cet univers des contrées du rêve, c'est pas quelque chose de les rêves bleus, c'est une énergie qui a pris, c'est une forme c'est une énergie qui est devenue matière, voilà. Mais pour lui, comme c'est Dieu, c'est pas des dieux, c'est des créatures qu'on comprend pas, qui sont au-delà de notre compréhension, qui sont souvent appelées dieux, mais qui n'en sont pas, qui sont des créatures venant d'ailleurs. Il y avait une vision très, très noire chez Lovecraft aussi de l'espace, du temps, de la place de l'humanité, tout ça. Et donc voilà, c'était quoi la question?
Est-ce que ça change quelque chose d'écrire dans un rêve?
Donc est-ce que ça change quelque chose d'écrire dans un rêve? C'est pas vraiment un rêve en fait. Il y a plein de choses qui sont possibles, mais je le prends pas comme étant un rêve dans le sens décousu. Il y a des grandes structures qui existent, qui sont fermes, des personnages, des peuples, une géographie. Donc on peut. C'est les contrées du rêve, mais en soi, c'est pas le rêve dans le sens décousu tel qu'on peut l'entendre. Quoi.
Une question aux filles, pour Eva comme pour Chloé, vous avez deux univers où ça ressemble plus à des cauchemars qu'à des rêves, avec un royaume au bord de l'implosion, puis toi tu as dit spectre, mais dans les tisseurs du temps, il y avait aussi des créatures étranges, hostiles et violentes, tout simplement. Pour quelles raisons vous avez construit ces cauchemars? En tout cas, ce cadre-là.
Pour quelles raisons? Oula.
Y a-t-il une raison?
Oui, enfin, je ne sais pas s'il y a eu un objectif conscient et volontaire au début, en fait. Enfin, je dis souvent, c'est plus pour les scénarios, que commencer par la note d'intention, c'est vraiment important. Donc, commencer une œuvre, une histoire, que ce soit un film ou un roman, en disant « Ok, je vais parler de ces grands sujets, là, avec les majuscules partout, pour dire telle chose, et ensuite écrire l'histoire qui va t'emmener là », à mon avis, ça marche rarement aussi bien que d'avoir ses propres idées, ses propres valeurs et écrire l'histoire qu'on a envie d'écrire et ensuite se rendre compte que en fait, ça parle de ça. Donc, je me suis jamais dit je vais décrire un univers, un monde où vraiment ça tourne très 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 mal pour donner telle leçon ou expliquer. expliquer telle chose. Enfin, je sais pas, c'était exactement ça ta question. Donc, et puis finalement, je pense aussi qu'entre le moment où j'ai commencé à écrire et maintenant, c'est quand même écoulé 12 ans, et que potentiellement, quand j'ai commencé à écrire à 17 ans, je me disais pas que ça tournerait de façon aussi. Ça tournerait aussi mal en fait. Et peut-être parce que moi-même, j'avais l'âge des héroïnes à l'époque et que du coup, je me posais pas trop de questions sur le monde qui m'entoure et etc., etc. À l'image des héroïnes du demi-loup et que maintenant, 12 ans plus tard, ça a un petit peu évolué aussi en fait. Du coup, peut-être que mes bouquins se sont assombris en même temps que moi-même je grandissais.
Ça, ne serait-ce qu'à quelques personnes,
déjà énorme.
Moi, je dirais que fondamentalement, c'est une démarche qui est d'écrire qui est très égoïste. C'est d'abord d'écrire parce que tu as une histoire et qu'il faut absolument que tu la poses. Alors, tu commences souvent en étant lecteur d'abord, et puis jusqu'au moment où il y a un déclic, où c'est des histoires, au lieu de les lire, ben, tu commences à te les faire, tu commences à les construire. Hein. Donc, il y a un moment où il faut les poser, et donc ça, c'est une première phase. Et la deuxième, elle est effectivement le rapport vis-à-vis du lecteur, c'est-à-dire le moment où tu passes le pas de dire bah, j'écris pour moi, j'écris des nouvelles, j'écris quelque chose, et là, je vais vraiment essayer d'aller vers des gens pour faire lire. Donc, c'est à la fois pas toujours évident parce que tu te confrontes à un jugement, tu te confrontes à un avis qui n'est pas forcément. Hein. Tu peux estimer que ton écrit est très bon et pas avoir le retour que tu espères. Mais moi, ce que j'attends surtout, c'est pratiquement ce que j'essaye de faire. C'est. Alors, je dirais que c'est deux choses différentes. Dans l'univers fantastique, c'est d'évoquer, c'est des images, c'est des sensations. C'est vraiment. C'est la puissance d'évocation. On est plus près du rêve, justement. Dans l'univers de science-fiction, on est plus d'essayer d'emporter le lecteur, plus que de dire qu'est-ce qui va arriver, mais qu'est-ce qui m'arrive. Est-ce que je me sens impliqué, est-ce que je me sens pris, est-ce que je suis moi-même dans l'histoire, est-ce que j'arrive, est-ce que je vis cette histoire. Voilà, c'est ça l'intention.
Et vous,
est-ce que j'ai mis un rêve pour résumer?
Ça tombe
bien, c'était mon autre question. Tout à l'heure, il y avait des tableaux avec marqué faites ton rêve une réalité. Est-ce que vous, là, aujourd'hui, en tant qu'écrivain, vous avez accompli un rêve quelque part? Ou est-ce que le rêve n'est pas complètement complet?
Tiens, je réfléchis.
Tu veux dire, en tant qu'écrivain, en tant que.
En tant qu'écrivain, en tant qu'auteur, en tant que.
Oui, dans ce que ça implique professionnellement.
Ouais, dans cette envie de publier un livre.
Oui, je pense, oui, je sais pas.
Peut-être que tu vis pas comme rêve.
Alors non, essayer de vivre de sa plume au quotidien, c'est pas toujours un rêve, très honnêtement. Mais en même temps, je pense que c'est à peu près la seule chose que j'ai envie de faire, vraiment, je continue comme ça. Mais oui, je pense que c'est un rêve. Après, je me suis pas dit depuis que je suis petite que je voulais être écrivain, mais avoir bossé des années sur une histoire et puis l'avoir publiée et ensuite rencontrer des gens qui l'ont lu et des gens qui l'ont aimé surtout, c'est quelque chose de vraiment, qui pour vous, qui est du l'ordre de l'accomplissement d'un rêve, enfin, qui peut faire rêver, en tout cas, je trouve ça.
Eva.
Alors pour moi, écrire, c'est un rêve qui date de l'enfance. Je me suis un petit peu essayée quand j'étais adolescente et j'ai très vite décidé que j'avais pas la compétence et la maturité pour le faire. Et donc c'est un projet que j'ai d'autant plus mis de côté qu'on m'a très vite découragée d'aller vers l'écriture comme vers un métier, hein, parce que c'était pas un métier dont je pouvais vivre. Tourner vers autre chose, et puis après, on fait ses études, et puis on rentre dans la vie active, et puis on n'a pas le temps. Et puis finalement, il n'y a même pas 10 ans hein, que j'ai réussi à me dire, allez, ça suffit, maintenant, je dégage du temps, et je me dis, enfin, j'ai mon rêve, écrire un roman, je vais réaliser mon rêve. Et j'ai réalisé mon rêve, j'ai écrit un roman, et puis comme ça me plaisait bien, j'en ai écrit. Mais oui, parce que pour moi, c'est effectivement un rêve que rien que de l'écrire, hein, de même pas le publier, c'était déjà le rêve.
Éventuellement.
Oui, je pense que comme tous, écrire et publier surtout, c'est un rêve d'enfant ou au moins d'adolescent. Je pensais écrire, j'avais 16 ans, donc ça commence à faire quelques années. Mais quand il arrive, tu t'aperçois qu'en fait, y a d'autres étapes. Il y a à publier, il y a à rencontrer les gens, il y a à rencontrer un minimum de visibilité aussi, et puis après, quand tu en as écrit un, tu en écris un deuxième, et au bout d'un moment, en fait, ça devient toujours le rêve, c'est celui d'après. C'est celui, est-ce que, et puis surtout, ça devient est-ce que j'aurai le temps d'écrire tout ce que j'ai envie d'écrire? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça continuera à intéresser des lecteurs? Est-ce que jusqu'où je pourrais aller jusqu'au bout en écrivant?
Très bien. Bon, il sera encore.
Décidément, on a un rêve de pile. Est-ce que vous avez des questions dans la salle avant qu'on clôture notre petite table ronde?
Moi, je rebondis sur ce que vous disiez sur la nécessité, enfin, sur la littérature qui fait souvent qui fait rêver. Est-ce que c'est pas aussi une nécessité de cauchemarder pour pouvoir envisager, enfin, presque toucher d'une part, mettre en fait à distance des choses qui nous dérangent, puis se dire non, c'est pas possible pour pouvoir rêver et puis voilà, toucher une dimension un peu plus politique en fait du rêve.
Qui va avoir?
Je vais essayer. Une dimension politique, oui, dans le sens où on se rapproche aussi, on peut se rapprocher facilement de ce qu'on appelle la dystopie aussi, c'est-à-dire de brosser des univers vers lesquels on risque de glisser, que ce soit d'un point de vue. Moi, dans l'âge ronde, j'ai aussi bien des notions environnementales que des notions politiques, que des notions sociétales. Voilà, donc on glisse des éléments qui sont des éléments noirs et qui sont bien évidemment, enfin, qui espèrent pouvoir interpeller les gens et les amener à une réflexion. Après, le côté cauchemar, moi je dirais même que le cauchemar est presque nécessaire dans une autre gamme, mais qui là ne peut pas être du tout politique, mais on a besoin de. La peur est nécessaire. On a besoin de la peur aussi pour peut-être pour goûter le plaisir de ne pas avoir peur, de vivre dans un univers somme toute, en tout cas chez nous, assez relativement serein. Voilà. Et on a besoin d'avoir ces deux visions. C'est nécessaire.
Oui, je dirais pas mieux, enfin, je sais pas quoi, si tu veux quelque chose. Dans l'idée d'apprivoiser les cauchemars, pas forcément politiques, je me souviens que quand j'ai écrit mon premier roman, j'avais un peu besoin d'apprivoiser l'idée de la mort. Donc, typiquement, le personnage principal s'y confronte. Donc, c'était. Il y avait un peu cette démarche-là.
Donc, une double démarche à la fois d'apprivoiser la réalité et en même temps de la questionner en permanence, d'où le succès. Il y a une discussion tout à l'heure avec le libraire
sur la dystopie.
Qui, la libraire disait, je comprends pas pourquoi les jeunes lisent autant de dystopie, et en fait, je pense que la réponse elle est là, sur l'interrogation du temps présent, et en même temps de pouvoir digérer aussi tout ce qui se passe par ce biais-là. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, allez-y.
Vous êtes Eva. Pour le dieu de l'équilibre, pourquoi vous avez choisi de supprimer celui-ci et les autres? C'est quoi? C'est qui?
Alors, les quatre autres dieux, donc vous avez le dieu de la terre, qu'on va prier pour tout ce qui est l'agriculture, tout ce qui est nourricier, etc. Vous avez la déesse de la guerre, pour laquelle on va plutôt faire des offrandes quand on va aller se taper sur le pays voisin. Et vous avez le dieu du feu qui est aussi le patron des arts et de la science. Voilà. Et puis, parce qu'il y en a cinq, j'avais oublié, hein, qui est assez important aussi, puisqu'il revient, c'est une figure d'hymne qui revient pas mal dans la mythologie, c'est la déesse du destin. Donc pourquoi ces quatre-là? Parce que j'avais dans l'idée que c'était des divinités qui pouvaient avoir accompagné l'humanité depuis ses débuts et que tout simplement ils représentent des grandes tendances qu'on retrouve des modes de vie tribaux, hein, tout simplement, que ce soit la guerre, le feu, etc. Et puis pourquoi le dieu de l'équilibre? Parce que l'équilibre c'est justement celui qui va aider à ce que tous ces aspects-là soient dans la bonne mesure et que s'il n'est plus là, les choses commencent justement à mal se passer. Le chaos qui règne dans le monde est du fait de la disparition de ce dieu. S'il n'y a plus d'équilibre, s'il y a des excès et des défauts, c'est là que les problèmes commencent.
C'est ça, il faut que l'équilibre soit rompu pour que toute histoire ait lieu. En fait.
Voilà, exactement. En fait,
dans une bonne histoire, quand les choses se passent bien, c'est pas, ça fait pas les bonnes histoires quand tout va bien. C'est pas une bonne histoire. Il faut du malheur pour raconter une bonne histoire.
L'équilibre, pour moi, c'est la mort. L'équilibre, pour moi, c'est la mort.
Quand elle vient au bon moment, de la bonne façon, elle fait partie du cycle, effectivement, mais imaginez que les gens ne meurent plus. Effectivement, vous avez du chaos, c'est pas du chaos. Je ne suis pas mis dans mon plan, mais ce serait une idée, par exemple, effectivement.
Oui, la mort, une bonne résolution de certains problèmes. Est-ce qu'il y a une autre question ? Moi j'en ai une dernière. Quels sont vos prochains livres ? Quels sont vos prochains rêves sur papier ?
Laurent, à quoi tu travailles ?
Moi très simplement, je travaille sur une suite de Langemont avec un nouveau rêve à travers la Russie et à travers des références aussi à d'autres auteurs comme Michel Strogoff.
Le roman de science-fiction dont je parlais tout à l'heure, dont j'ai écrit la première partie à partir d'un rêve qui sera en un seul tome, qui sera court, donc j'attends avec impatience de pouvoir commencer, parce que c'est quand même un petit peu autre chose avec toutes ces années. Voilà.
Moi je travaille sur une deuxième histoire dans le même univers que celui-ci.